Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce vendredi 1er septembre 2023, le 10 Shahrivar 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez à l'écoute. Le monde musulman uni est le plus grand obstacle à l'impérialisme, affirme le président Raïsi. En visite au Liban, Amir Abdullahian a rencontré le secrétaire général du Hezbollah libanais et le Hamas a salué le refus de la Libye de normaliser avec Israël. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Lors d'une réunion avec des érudits religieux sunnites, jeudi, le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïsi, a déclaré qu'un monde musulman uni serait le plus grand obstacle à l'impérialisme mondial. Raïsi a souligné que les puissances impériales ont considéré un monde musulman uni comme le plus grand obstacle à la réalisation de leurs objectifs après la Seconde Guerre mondiale. Il a ajouté que l'arrogance mondiale a créé des obstacles sur le chemin des musulmans qui tentaient de progresser, diffuser la propagande via leur empire médiatique et former des groupes terroristes takfiristes pour provoquer une effusion de sang parmi les musulmans. Le président iranien a attribué à l'arrogance mondiale les profanations aux valeurs sacrées des musulmans, en particulier le prophète, dans le but de s'opposer aux nations musulmanes. Ailleurs dans ses remarques, Raïsi a déclaré que des développements régionaux se reproduisait en faveur du front de résistance, soulignant, dixit, la situation actuelle en Palestine ne peut pas être comparée à celle du passé, fin de citation. Auparavant, selon Raïsi, l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, prenait des décisions pour les Palestiniens. Mais ce sont actuellement les combattants palestiniens qui, selon lui, prennent l'initiative. Il a déclaré que la résistance était le front victorieux sur le champ de bataille et qu'il n'est plus question de compromis et de capitulation dans la littérature palestinienne. De plus, le président Raïsi a déclaré qu'un nouvel ordre mondial serait établi avec l'effondrement des États-Unis et des puissances arrogantes. On vous lisait aussi en titre en visite officielle au Liban, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, s'est entretenu vendredi avec le secrétaire général du Hezbollah libanais, Syed Hassan Nasrallah. Lors de cette rencontre, qui a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Beyrouth, Mojtaba Amani, les deux parties ont discuté des derniers développements politiques au Liban et dans la région. Par ailleurs, le patron de la diplomatie iranienne a rencontré le président du Parlement libanais, Nabih Berri. Lors de cette entrevue, Amir Abdullahian a déclaré que le choix du président relevait de la compétence de la nation et des responsables politiques libanais, ajoutant, dixit, « Nous sommes convaincus que les dirigeants libanais prendront la meilleure décision au meilleur moment. » Lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, tout en transmettant les salutations de Mohammad Barer Ghalibaf, président du Parlement iranien, à son homologue libanais, a renouvelé son invitation à se rendre à Téhéran. À son arrivée dans la capitale Beyrouth, en provenance de Damas, Amir Abdullahian a appelé les parties régionales et internationales à soutenir le Liban, affirmant que ce sont les dirigeants libanais qui décideront du choix du président de la République. La présidence libanaise s'est retrouvée dans l'impasse à plusieurs reprises et le pays est embourbé dans une crise économique qui survient dans un contexte de sanctions paralysantes imposées par les États-Unis et leurs alliés. Amir Abdullahian est arrivé à Beyrouth au terme de sa visite de 2 jours en Syrie, au cours de laquelle il a rencontré le président syrien Bachar al-Assad et le ministre des Affaires étrangères Faisal Miqdad et le premier ministre Hussein Arnous. Le chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique de la Palestine Hamas, Ismail Haniyeh, a salué la position populaire et officielle de la Libye qui rejette la normalisation avec Israël et a exprimé l'appréciation du peuple palestinien pour cette décision. Cela fait suite à un appel téléphonique que Haniyeh a passé au chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Menfi, selon un communiqué publié par le Hamas, consulté par l'agence de presse officielle turque Anadolu. Haniyeh a également évoqué au cours de cet entretien téléphonique des évolutions liées à la Palestine et de la position officielle et populaire de la Libye rejetant la normalisation avec Tel Aviv. La semaine dernière, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré à Rome, capitale d'Italie, la chef de la diplomatie libyenne, Najla al-Mangouch. Cette rencontre a suscité un tollé général en Libye. Des groupes, personnalités et citoyens libyens sont descendus dans la rue pour exprimer une fois de plus leur rejet à toute normalisation avec Israël. Les manifestants libyens ont également incendié le drapeau du régime sioniste. L'actualité est aussi le Niger. Les propositions de courte période de transition suggérées par l'Algérie et le Nigeria restaient vendredi sans réponse des militaires au pouvoir depuis un mois à Niamey qui continuaient leur bras de fer diplomatique avec la France. Si la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reste ferme sur sa position, soit un rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel et la réinstallation du président renversé Mohamed Bazoum, 2 voisins du Niger ont ouvert la porte à une éventuelle transition. Le président nigérian, Bola Tinubu, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, a cité en exemple jeudi la transition de 9 mois qui avait eu lieu dans son pays en 1999. Le président ne voit pas de raison que cela ne puisse pas se reproduire au Niger si les autorités militaires sont sincères, prétend la présidence nigériane dans un communiqué. En début de semaine, l'Algérie, autre influent voisin du Niger, avait été plus précise en proposant au régime militaire un plan de transition de 6 mois sous la tutelle d'une autorité civile. Pour l'heure, les généraux au pouvoir à Niamey n'ont pas réagi à ces propositions et leur seule prise de parole sur le sujet remonte au 19 août lorsque le nouvel homme fort du pays, le général Abdourahman Tiani, avait indiqué vouloir une transition de 3 ans maximum. L'autorité militaire au pouvoir au Niger a ordonné jeudi l'expulsion de l'ambassadeur de France dans une lettre adressée au ministère français des Affaires étrangères. Au Niger, le ministère des Affaires étrangères désigné par les putschistes a affirmé que les services de police sont instruits afin de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France. Plus tôt le 15 août, la junte avait exigé son départ dans un délai de 48 heures. Y réagissant, le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que les putschistes n'avaient pas autorité pour faire cette demande. Dans une note datée du 29 août, le ministère des Affaires étrangères, nommé par le Conseil national pour la sauvegarde de parti, CNSP, au Niger, a rétorqué que la question de l'agrément de l'ambassadeur de France était irrévocable, ajoutant qu'au terme du délai de 48 heures expiré à compter du 28 août 2023, l'intéressé ne jouit pas de privilèges et d'immunités attachées à son statut. Destination France, pour fermer le journal, les Nations Unies critiquent la décision de la France d'interdire le port d'abaya dans les écoles. Lors d'une réunion d'information à Genève, la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Marta Hurtado, a rappelé à la France qui a décidé d'interdire le port de l'abaya dans les écoles qu'en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme, les restrictions à la pratique de la religion ne sont autorisées que dans des circonstances très limitées. En effet, le ministre français de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé dimanche soir au JT de TF1 qu'il avait décidé d'interdire le port d'abaya dans les écoles, notant qu'il discuterait de la mesure avec les responsables des établissements d'enseignement cette semaine. À ce sujet, la responsable onusienne a ajouté que l'ONU n'était pas encore en mesure de commenter en détail cette décision, étant donné que les plans concrets et la manière dont ils seraient mis en œuvre ne sont pas encore clairs. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. L'hégémonie occidentale est en passe de disparaître, analyse de l'expert nigérian des affaires politiques Haroun El-Binavi. La conférence de Berlin de 1884-1885 fut sans aucun doute l'un des plus grands sommets pervers de l'histoire moderne. Des colonialistes européens, cupides et racistes, se sont réunis dans la ville allemande et ont divisé des Africains comme s'ils partageaient le pain sur la table du petit-déjeuner. La conférence a été organisée par Otto von Bismarck, le premier chancelier d'Allemagne, à la demande du roi Léopold II de Belgique, le barbare génocidaire occidental qui a massacré plus de 10 millions d'Africains innocents au Congo. La plupart des Africains ne sont même pas au courant de ce génocide au Congo perpétré par les colonialistes belges, car il ne figure pas dans le livre d'histoire écrit par les colonialistes blancs. Le colonialisme européen en Afrique a duré plus d'un siècle. Seul l'ancien royaume d'Éthiopie a été épargné parce qu'il a vaincu les colonialistes italiens sur le champ de bataille. La vague d'indépendance en Afrique des années 1950 et 1960 ne représentait pas une véritable indépendance. Ce qui s'est réellement produit, c'est que le colonialisme a été intelligemment remplacé par le néocolonialisme par les barbares impérialistes génocidaires de l'Occident. Le pillage massif des riches ressources en Afrique s'est poursuivi sous la direction fantoche de l'Occident. Les vaillants dirigeants africains qui refusaient de danser au rythme des colonialistes européens ont été éliminés. C'est ce qui est arrivé aux héros africains Patrick Lumumba du Congo et Thomas Sankara du Burkina Faso. Le Congo possède toutes les ressources minérales à l'exception du pétrole brut. L'uranium utilisé par le régime américain pour fabriquer les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki a été extrait au Congo. Parmi les colonialistes européens, le colonialisme français a été le plus brutal. La France a causé la mort de plus de 1,5 million de civils rien qu'en Algérie, de dizaines de milliers de personnes dans d'autres pays africains. L'un des modus operandi des colonialistes français consistait à rassembler les érudits musulmans dans une salle et à les exterminer tous. Ils l'ont fait en Algérie, au Tchad, au Mali et au Sénégal. Et l'avidité de leur néocolonialisme est extrême. Même après l'indépendance, la France contrôle toujours les richesses de ses anciennes colonies en Afrique. Le néocolonialisme français en Afrique ne durera cependant pas éternellement. Le récent coup d'État militaire dans l'État ouest africain de la République du Niger n'est pas isolé, mais fait suite à des bouleversements similaires dans des pays voisins du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée ces dernières années. Mercredi, nous nous sommes réveillés avec la nouvelle sur le Gabon. dont le dirigeant a été renversé par l'armée. Ali Bongo a hérité de la présidence gabonaise de son père corrompu, Omar Bongo. Les militaires se sont présentés comme membres du comité de transition et de restauration des institutions. Au nom du peuple gabonais, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime actuel, ont-ils annoncé. La réalité est que la démocratie libérale occidentale a non seulement échoué en Afrique, mais qu'elle a lamentablement échoué. La démocratie en Afrique est devenue un outil permettant aux élites dirigeantes corrompues de voler les richesses de leurs pays respectifs et de les transférer aux institutions financières occidentales, alors que les populations restent dans une pauvreté et une faim abjecte. La démocratie n'est qu'un autre système de gouvernement détourné par les barbares hégémoniques occidentaux, les plus grands ennemis de la race humaine. La démocratie est désormais un outil impérialiste de l'hégémonie occidentale en Afrique. C'est un fait amer et indéniable. La tendance la plus visible au Mali, au Burkina, en Guinée et en République du Niger et au Gabon est que les changements de gouvernement bénéficient tous du soutien populaire, car les peuples de ces pays se sont épuisés de l'impérialisme, de l'arrogance et du terrorisme des Occidentaux.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, des milliers de Nigérians sont descendus dans la rue pour exprimer leur soutien à la récente décision du Conseil au pouvoir au Niger depuis le coup d'État de 26 juillet quant à l'expulsion de l'ambassadeur de France du Niger. Emmanuel Macron, le président français, quant à lui, a dit que l'ambassadeur de France restera en son poste. Est-ce donc une déclaration de guerre? Justement, la France fait tout pour retrouver ses intérêts en Afrique, des intérêts illégitimes bien sûr, en poussant la CEDEAO par exemple d'intervenir militairement dans ce pays alors que cette dernière ne dispose pas assez d'effectifs pour le faire. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'ambassadeur de France reste en poste au Niger malgré les pressions, a assuré Emmanuel Macron. Le président français Emmanuel Macron a affirmé que l'ambassadeur français va rester au Niger malgré les pressions des militaires à l'origine du coup d'État dans le pays. Emmanuel Macron, qui ouvrait lundi 28 août la 29e édition de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, a salué l'action des diplomates français qui travaillent dans des conditions difficiles, citant en particulier la situation au Niger où l'ambassadeur est toujours en poste, bien que les militaires ayant pris le pouvoir aient demandé son départ. Plus tôt, dans une interview à l'hebdomadaire français Le Point, Emmanuel Macron a prétendu que la France avait eu raison de s'engager aux côtés des pays africains pour lutter contre le terrorisme. Macron a également lié l'intervention française dans la région à la survie de certains pays. Pour Emmanuel Macron, l'intervention française au Sahel a permis de préserver l'existence même de plusieurs pays. Le chef de l'État français a aussi prétendu que ces opérations menées à la demande des États africains ont été un succès. Macron a réitéré son appel à ce qu'il a appelé le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Par ailleurs, l'agence de presse turque Anadolu a cité des sources locales disant que les nouveaux dirigeants militaires au Niger ont également coupé l'eau et l'électricité au consulat français dans la ville de Zinder. À ce sujet, le site d'information Actu Cameroun se réfère à plusieurs médias sociaux écrits. Alors que les militaires au pouvoir au Niger ont demandé à l'ambassadeur de France à Niamey, la capitale du pays, de quitter le territoire et que Paris s'entête à rester, les autorités ont coupé l'eau et l'électricité à l'ambassade et aucune livraison de nourriture n'est autorisée. Le même rapport indique que l'agent a averti que tous les partenaires qui continuent d'aider les Français dans le processus de fourniture de biens et de services seront considérés comme des ennemis du peuple souverain. Ces informations interviennent après que le délai de 2 jours accordé par l'administration militaire à l'ambassadeur de France pour quitter le pays a expiré dimanche.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour à vous.
Un plaisir de vous recevoir dans ce débat. Un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien, qui a accepté notre invitation depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, à votre télésécrétaire et à votre équipe. Et bien entendu à M. Cornu, que j'ai toujours plaisir de retrouver.
Eh bien, merci. Alors, M. Luc Michel, vous êtes un expert des questions africaines, tout le monde le sait. Alors, pourquoi le président français s'entête à insister que l'ambassadeur de France reste en son poste au Niger alors que la France n'a plus rien à faire dans ce pays?
La France s'accroche désespérément au cadavre de la France-Afrique et est prête à risquer une guerre avec les Africains pour se faire. Macron est un menteur lorsqu'il dit qu'il n'est pas responsable du terrorisme. Il faut savoir que l'expansion du terrorisme au Sahel, elle est consécutive à la destruction de Jean-Marie Kadhafi en 2011 et à 2 opérations séquelles de la Libye qui sont le Mali et la Centrafrique, où on a mis des islamistes au pouvoir. Aujourd'hui, alors que l'on condamne le coup d'État au Niger, les Français ont organisé un coup d'État au Gabon. Malheureusement, les Gabonais n'ont pas écouté les avertissements que je lance depuis des jours. Vendredi, sur vos antennes, j'ai décrit précisément le scénario du coup d'État.
Oui. Bernard Cornu, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Luc Michel quand il dit qu'Emmanuel Macron est un menteur? Il est responsable de terrorisme dans ce pays alors qu'il dit que la France a tout fait pour donc en finir avec le terrorisme dans ce pays.
Bon, on ne peut pas en tout cas essentialiser. Si parfois Macron, comme plein de présidents et de politiques, est parfois menteur, il n'est pas systématiquement. C'est vrai qu'il a voulu combattre le terrorisme à la demande de certains chefs d'État africains. Moi, je pense depuis longtemps que ce terrorisme est mal combattu parce qu'on le combattra d'abord en combattant le mal-développement, le chômage, puisque ce qu'on appelle les terroristes sont des mafias qui collectent de l'argent par différents moyens, notamment la contrebande de carburant ou d'autres choses. Dans cette région-là, avec 150 dollars par mois, on peut facilement recruter quelqu'un. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi, tant qu'il n'y a pas du bon développement, et là aussi, je veux contredire sur un point précis le président Macron, le coup d'État, effectivement, n'est pas légitime. Il a mis à bas un président élu dans des conditions qui ont été considérées comme normales, légales. Mais il a dit que à cause de ce coup d'État, les Poutchis sont en train de perdre les financements internationaux. C'est vrai. Financements internationaux qui permettaient qui contribuaient à sortir le pays, le Niger, de la pauvreté. Or, pour ceci, c'est faux. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est faux. Ce qui peut sortir un pays de la pauvreté, c'est une politique économique et sociale, fiscale, qui soit juste et qui permette à des projets positifs d'émerger et de trouver leur financement local ou international sans avoir besoin forcément des financements internationaux. Là, je parle en termes d'expérience, de projets de développement. On ne peut pas garantir absolument que les financements internationaux apportent du développement, font sortir un pays de la pauvreté. C'est la qualité des projets. La qualité des projets requiert une bonne administration, requiert de bons économistes, de bons spécialistes, de bons sociologues, de bons économistes pour faire émerger des projets adaptés aux ressources spécifiques du pays, qui sont effectivement certains minerais, qui sont aussi le solaire depuis longtemps, et qui sont aussi une capacité humaine d'investir dans l'agriculture, dans le développement, dans le commerce. Et c'est adapter ça profondément aux capacités du pays qui permet de le faire sortir de la pauvreté, dans le cadre d'une bonne politique sociale qui nécessite effectivement des politiques élues qui soient honnêtes et compétentes.
Bien sûr, ce n'est pas l'intention des pays occidentaux de développer l'Afrique. Luc Michel, Bernard Cornu a dit que la France, au départ, voulait combattre le terrorisme dans ce pays-là, mais il a mal fait. Est-ce que vous êtes d'accord déjà? Car vous dites que dès le départ, la France cherchait des intérêts légitimes dans ce pays.
Pas du tout. Le terrorisme ou le djihadisme, ce n'est pas un adversaire des Occidentaux, les Français et les Américains. C'est un prétexte à l'ingérence, comme la piraterie en Somalie ou dans le Golfe Guinée est un prétexte à l'ingérence. En 2011, ils ont détruit la Jamaïque de Kadhafi, qui contenait le terrorisme. Kadhafi a annoncé, vous me faites tomber, vous aurez l'immigration et vous aurez le terrorisme. C'est ce qui a eu lieu. Ensuite, on a développé deux séquelles de la Libye pour compter la zone de chaos. Au Mali, on a permis aux Touaregs qui étaient au service de Kadhafi de rentrer au pays en traversant la Libye et le Mali avec armes et bagages, c'est-à-dire des munitions blindées, des missiles anti-chars, etc. Et à faire l'injonction avec les djihadistes d'Al-Qaïda au Mali, en Centrafrique. On a permis à une coalition islamiste de s'emparer du pouvoir, c'était la Sénéga. Je rappelle qu'en Songo, Sénéga veut dire la base Al-Qaïda en arabe. La lutte d'un terrorisme occidental est une impossible. Il y a trois chefs d'État qui ont combattu les terroristes. C'est Poutine dans le Caucase et en Syrie. C'est Bachar el-Assad en Syrie. Et c'est feu, mon ami le maréchal, il risque d'être mis dans le Sahel. Tout le reste, c'est des discours vains. Les Français, en 8 années de soi-disant guerre, contre le terrorisme, eu 53 morts. C'est risible pour une guerre.
Absolument. Bernard Cornu, le peuple a très bien compris ce que vient de dire M. Luc Michel. C'est pour ça qu'il exige l'expulsion de l'ambassadeur de France du Niger et l'expulsion des troupes françaises. Et que pensez-vous, je vous prie?
C'est tout à fait vrai que la destruction illégitime de la Libye à l'initiative de M. Sarkozy et de Cameron, pour des raisons inavouables, a permis à toutes les mafias existantes au Sahel de s'approvisionner très facilement en armes, ce qui a aggravé la situation. Mais les mafias qu'on appelle aujourd'hui terrorisme datent même d'avant. Et pour moi, et je l'ai déjà dit sur votre antenne, elles naissent d'une part de l'enrichissement de certains pays arabes de la péninsule arabique dans les années, fin des années 70-79, donc, qui sont venus chasser ici dans la gazelle et chercher des filles. Et ceci a commencé à générer une corruption et des mafias dans toute cette région du Sahel. Et d'autre part, je l'ai cité aussi souvent, ce sont les différences de taxation des carburants qui sont très peu chers en Algérie, en Libye et au Soudan et qui sont beaucoup plus chers au Sahel et aussi peu chers, moyennement chers, au Nigeria. Donc cette contrebande pour des carburants qui sont des produits essentiels pour l'économie, pour la survie, pour toute la société, sont une source, ces différences de taxation sont une motivation de contrebande. Et donc, ceux-ci, ces mafias sont enrichies et maintenant passent à d'autres trafics, trafic d'armes, trafic de personnes, trafic de drogue dans toute la région. Et c'est une politique beaucoup plus réaliste en collaboration avec des pouvoirs élus locaux qui pourraient permettre de mettre fin à contenir au moins ce terroriste et éviter toutes les conséquences très graves qu'il y a à ça. Et aussi le développement des emplois adaptés aux situations spécifiques de ces pays du Sahel.
Bernard Cornu, ce que vous dites n'arrange pas les choses pour la population nigérienne, donc qui est en très difficulté. Après ce coup d'État et même avant, ils avaient beaucoup de problèmes. Donc, est-ce que vous êtes plutôt optimiste quant à l'avenir de ce pays avec cette junte au pouvoir?
Ce pays a quelques ressources minières bien connues, donc les mines d'uranium exploitées principalement par les Français, mais qui intéressent aussi la République de Turquie, qui a dans les années, il y a plus de 10 ans, 15 ans, a développé assez massivement une coopération avec le Niger, en commençant par des forages, puisque la Turquie avait beaucoup d'équipes spécialistes pour la prospection d'eau et les forages, mais qui s'intéressaient au-delà à des ressources minières qui peuvent l'intéresser aussi pour ses centrales nucléaires civiles en construction. Et la Turquie a aussi participé à développer l'enseignement à travers des écoles. Voilà. Donc ça, je l'ai vécu de près puisque j'ai travaillé moi-même en Libye et j'ai eu à avoir des notes très précises de la coopération turque qui voulait s'implanter au Niger. Et donc là aussi, je suis d'accord avec Michel que, disons, l'ancien impérialisme français, le colonialisme résiduel, l'attitude parfois arrogante, supérieure, soit des coopérants français, j'en ai connu, soit des militaires français, fait que leur position, leurs attitudes, leurs actions ne sont pas toujours bien adaptées au bien-être des populations locales. Le Niger a de l'énergie solaire, on a surtout tenté de développer des barrages, alors que depuis 20 ans, 30 ans, on aurait dû, et on a commencé à le faire d'ailleurs, parce qu'il y a eu des projets au Niger il y a très longtemps, pour mettre des télévisions dans les villages, à but scolaire, à but pédagogique, mais ceci devrait être fait beaucoup plus massivement, beaucoup plus sérieusement, et avec les ressources humaines locales. Donc c'est un pays pauvre, c'est un pays qui restera pauvre, mais il a un potentiel, et c'est lorsque tout ce potentiel sera exploité, qu'il y aura une vision des politiques qui soit bien tournée positivement vers l'avenir pour faire du développement, pour créer des emplois, qu'on pourra petit à petit se débarrasser des mafias, du terrorisme et de l'emprise, disons, postcoloniale des empires français et belges ailleurs et tout ça.
Voilà. Absolument. Luc Michel, la France n'est pas prête à jeter l'éponge car elle pousse la CEDEAO, par exemple, d'intervenir militairement dans ce pays, alors que cette dernière ne dispose pas assez d'effectifs pour le faire. Est-ce que la CEDEAO va écouter la France ou plutôt les voisins du Niger qui sont contre l'intervention militaire dans ce pays?
La CEDEAO a perdu toute crédibilité et est entièrement dans les mains des Européens et des Français. La France s'accrochera évidemment à l'Afrique jusqu'au dernier moment. Il faut se dire quelque chose, c'est qu'au Niger, comme au Burkina Faso et au Mali, ce ne sont pas des coups d'État militaires, c'est une révolution populaire. Ce sont les militaires appuyés sur la population. Une dernière chose, une remarque à dire sur le terrorisme, c'est qu'avant 2011, effectivement, les bandes terroristes étaient des groupuscules mafieux. Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb, c'était l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, on l'appelle Malboromène. Mais la destruction de la Jamaïque, les aventures au Niger, au Mali, au Centrafrique, ont fait que les bandes mafieuses sont aujourd'hui devenues de vastes organisations transnationales. Boko Haram, Daesh, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Nusra, soutenu par les Turcs, etc. C'est cela qu'il faut constater. Les Français ont fait une erreur d'appréciation. Ils croient que le sentiment du Français, c'est quelque chose d'artificiel, formé par la Russie ou des gens comme moi. En réalité, c'est un tsunami qui va porter la France d'Afrique.
Bernard Cornu, est-ce que vous partagez l'opinion de Luc Michel?
Disons, c'est vrai qu'il y a un tsunami, c'est vrai qu'il y a des soulèvements populaires, mais c'est vrai aussi qu'avec les moyens modernes médiatiques, avec la communication massive par les réseaux sociaux, les choses se propagent beaucoup plus vite qu'ils pouvaient se propager il y a 30 ou 40 ans. Pour revenir encore sur un détail de l'énergie solaire, en 86, donc oui, c'est il y a très longtemps, quelqu'un que j'ai connu a circulé avec un véhicule solaire très simple, qui est très simple, avec quatre roues de vélo et des panneaux solaires, un moteur, même pas de changement de vitesse. Il a parcouru 3000 km entre Zinder, donc au sud du Niger, et le Sénégal, Dakar. Donc c'était en 86. Vous voyez tout ce qu'on aurait pu faire si on avait pris ce potentiel de l'énergie solaire au sérieux Et que je pense que ça viendra, mais je pense qu'un jour, ce ne sera pas les Français, mais ce seront les Chinois qui feront des usines de panneaux solaires photovoltaïques au Niger pour pouvoir exploiter cette ressource très importante du Sahel qui permet de pallier au manque de ressources en pétrole dans tout ce Sahel.
Bernard Cornu, Luc Michel a tout à l'heure fait allusion à la CEDEAO qui a perdu toute crédibilité. La France pousse la CEDEAO d'intervenir militairement dans ce pays alors que la CEDEAO a beaucoup de problèmes d'effectifs. Est-ce que vous êtes d'accord, je vous prie?
Disons, peut-être que la France pousse, mais en fait de moins en moins, puisque dans ce sens-là, l'Union européenne et d'autres pays ne la poussent pas, ne la confortent pas. Donc l'Union européenne a soutenu la France dans sa position de refuser l'expulsion de son ambassadeur pour cause, disons, d'illégitimité prétendue de ce coup d'État. Donc c'est une sorte d'application de la vieille convention de Vienne qui régit les diplomaties, les relations diplomatiques entre les nations. La France reconnaît des États. Elle peut ou ne pas reconnaître un gouvernement, mais elle reconnaît d'abord des États. Donc, à une frontière, un pays, dans sa frontière et dans sa, disons, dans sa constitution. Bien sûr, il y a eu un ultimatum de la CEDEAO pour préparer une intervention militaire qui réunit quelques pays d'accord, mais d'autres ne sont pas d'accord. Donc, au sein de l'ensemble de l'Afrique, je ne pense pas qu'il y ait un consensus. Et dans ce cas, la France ne peut pas vraiment trop pousser la CEDEAO à une intervention militaire. Donc, et je pense que même au sein de la junte au pouvoir actuellement au Niger, il n'y a pas forcément un consensus pour établir leur position, leur réponse face à la CEDEAO. Et du coup, l'Algérie intervient pour proposer aussi des éléments très concrets de transition, d'évolution politique dans des délais sans les soumettre à une pression d'ultimatum trop court, qui sont toujours nocifs, qui sont toujours dangereux. Parce que soit ça précipite dans un conflit, soit ça rend un peu ridicule ceux qui ont émis un ultimatum.
Absolument. Luc Michel, je vous prie. Les choses sont devenues très sérieuses quand le président français a déclaré que l'ambassadeur de France restera en son poste au Niger. Est-ce que c'est une déclaration de guerre ou c'est juste un ordre provisoire?
Macron, avec arrogance, fait le bras de fer avec les Nigériens. Tous les vrais experts annoncent une intervention militaire. Ça sera une guerre qui ensanglantera toute l'Afrique. C'est cela la réalité. Vous savez que les armées du Burkina Faso et du Mali sont prêtes à entrer en liaison, en conflit armé contre les armées de la CEDEAO. Les avions de guerre maliens et burkinabés sont déjà déployés en Afrique. Nous sommes devant les risques d'une guerre générale.
Une guerre générale. Et Bernard Cornu, votre réaction, je vous prie.
Je ne pense pas. C'est vrai qu'une guerre ferait des morts, des gros dégâts. Je ne pense pas que ni la Russie, ni la France, ni d'autres pays, ni surtout les Américains, veulent engager leur armée dans un conflit en Afrique où il n'y a, je pense, pas d'intérêt majeur, incontournable, dans cette affaire-là. Je pense que la France, comme d'autres pays, essaye de défendre la légitimité, essaye de défendre les frontières. Le président Macron l'a redit, mais il faut quand même rappeler que toutes ces frontières sont coloniales et que le développement de l'Afrique devra un jour arriver à dépasser ces frontières, tenter d'unifier progressivement les fiscalités, les politiques sociales, comme nous essayons désespérément de le faire en Europe, parce que c'est cet effacement des grandes différences fiscales et des politiques socio-économiques de chaque pays qui permettent d'avoir un développement sain qui ne soit pas limité par les frontières qui sont toutes d'origine coloniale.
Absolument. Luc Michel, pour terminer, je vous prie, parmi des milliers de manifestants nigérians qu'on voyait dans la rue, parmi certains, on voyait le drapeau de la Russie. Le peuple nigérian est persuadé que la Russie ne va pas remplacer la France. Est-ce que vous êtes d'accord?
Écoutez, la Russie, elle offre des choix géopolitiques. Pas plus en Centrafrique qu'au Mali. Elle a remplacé les Français, mais elle a donné au président élu, Touadéra et Goïta, elle leur a donné le choix géopolitique, la détermination de leur propre politique. Ce que la Russie propose, ce n'est pas de remplacer un occupant colonial par un autre, c'est d'offrir une véritable émancipation des peuples. Aujourd'hui, la légitimité n'est pas représentée par des présidents élus. Elle est représentée par les masses populaires. Pazou a perdu toute légitimité. Il a donc été renversé.
Absolument. Eh bien, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci à Bernard Cornu, qui nous a accompagnés depuis Vaucluse. Il est également expert des questions internationales. Merci, Monsieur Bernard Cornu. Eh bien, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur le coup d'État au Niger. L'autorité militaire au pouvoir au Niger a ordonné ce jeudi 31 août l'expulsion de l'ambassadeur de France dans une lettre adressée au ministère français des Affaires étrangères. Au Niger, le ministère des Affaires étrangères désigné par les dirigeants du coup d'État a affirmé jeudi 31 août que les services de police se sont instruits afin de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France. Plus tôt le 15 août, la junte avait exigé son départ dans un délai de 48 heures. Y réagissant, le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que les putschistes n'avaient pas autorité pour faire cette demande. Dans une note datée du 29 août, le MAO nommé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a rétorqué que la question de l'agrément de l'ambassadeur de France était irrévocable, ajoutant qu'au terme du délai de 48 heures expiré à compter du 28 août 2023, l'intéressé ne jouit plus de privilèges et d'immunités attachées à son statut. Cependant, le président français Emmanuel Macron insiste que l'ambassadeur reste au Niger malgré les pressions militaires, saluant l'action des diplomates français qui travaillent dans des conditions difficiles. Plutôt dans une interview à l'hebdomadaire français Le Point, Emmanuel Macron a prétendu que la France avait eu raison de s'engager aux côtés des pays africains pour ce qu'il a qualifié de lutte contre le terrorisme. Macron a également lié l'intervention française dans la région à la survie de certains pays africains. Le président français Emmanuel Macron a affirmé que l'ambassadeur français va rester au Niger malgré les pressions des militaires à l'origine du coup d'État dans le pays. Emmanuel Macron, qui ouvrait lundi 28 août la 29e édition de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, a salué l'action des diplomates français qui travaillent dans des conditions difficiles, citant en particulier la situation au Niger où l'ambassadeur est toujours en poste, bien que les militaires ayant pris le pouvoir et demandé son départ. Plus tôt, dans une interview à l'hebdomadaire français Le Point, Emmanuel Macron a prétendu que la France avait eu raison de s'engager aux côtés des pays africains pour lutter contre le terrorisme. Macron a également lié l'intervention française dans la région à la survie de certains pays africains. Les opérations et l'engagement de la France ont assuré la survie de certains pays africains, a prétendu mercredi 23 août le président français. Pour Emmanuel Macron, l'intervention française au Sahel a permis de préserver l'existence même de plusieurs pays. Si l'on prend de la hauteur, la France a eu raison de s'engager aux côtés d'États africains pour lutter contre le terrorisme. C'est son honneur et sa responsabilité, rapporte France TV Info, qui relate les allégations de mercredi dernier d'Emmanuel Macron. Si nous ne nous étions pas engagés avec les opérations Serval puis Barkhane, il n'y aurait sans doute plus de Mali, plus de Burkina Faso, et je ne suis même pas sûr qu'il y aurait encore le Niger, a-t-il aussi prétendu. Le chef de l'État français a aussi prétendu que ces opérations menées à la demande des États africains ont été un succès. La politique française que je véhicule depuis 2017, c'est de sortir de la mentalité sécuritaire, a-t-il dit, avant de prétendre « Je crois en une politique de partenariat où la France défend ses intérêts et accompagne l'Afrique dans sa réussite ». Macron a également réitéré son appel à ce qu'il a appelé le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger et à la libération du président Mohamed Bazoum renversé par l'administration militaire le 26 juillet. Par ailleurs, l'agence de presse turque Anadolu a cité des sources locales disant que les nouveaux dirigeants militaires au Niger ont également coupé l'eau et l'électricité au consulat français dans la ville de Zinder. À ce sujet, le site d'information Actu Cameroun se réfère à plusieurs médias sociaux et écrit « Alors que les militaires au pouvoir au Niger ont demandé à l'ambassadeur de France à Niamey, la capitale du pays, de quitter le territoire et que Paris s'entête à rester, les autorités ont coupé l'eau et l'électricité à l'ambassade et aucune livraison de nourriture n'est autorisée. Selon un rapport de la chaîne de télévision turque TRT Vard, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, support de la junte militaire, a demandé à tous les partenaires des bases françaises au Niger de suspendre toute fourniture d'eau, d'électricité et de produits alimentaires. Le même rapport indique que la junte a averti que tous les partenaires qui continuent d'aider les Français dans le processus de fourniture de biens et de services seront considérés comme des ennemis du peuple souverain. Ces informations interviennent après que le délai de 2 jours accordé par l'administration militaire à l'ambassadeur de France pour quitter le pays a expiré dimanche. Rappelons que la France dispose de forces militaires dans toutes ses anciennes colonies et a stationné au Niger sa plus grande force militaire en Afrique. Mais les nouveaux dirigeants nigériens ont appelé le gouvernement français à retirer ses ressortissants du Niger. Le Conseil militaire du Niger a même souligné qu'il souhaitait expulser du pays une série d'hommes politiques corrompus au service des Français et des Occidentaux, accusant Paris d'avoir aidé certains États membres de la CEDEAO à lancer une action militaire contre le Niger. Alors qu'il est, les nations africaines sont persuadées que le gouvernement français, afin de poursuivre sa domination traditionnelle sur l'Afrique, favorise même les groupes terroristes tels que Boko Haram, les Chebab, Daesh et Al-Qaïda et les utilise comme levier de pression pour la mise en œuvre de ses objectifs politiques et économiques, non seulement à l'échec du continent africain, mais aussi au niveau mondial. Des milliards et des milliards de dollars ont été volés à l'Afrique et des millions d'Africains ont été assassinés par les colonialistes européens, tandis que les Africains ont subi un lavage de cerveau massif en leur faisant croire qu'ils n'avaient aucune histoire avant le colonialisme européen. Actuellement, la tendance la plus visible au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Niger et au Gabon est que les changements de gouvernement bénéficient tous du soutien populaire, car les peuples de ces pays se sont épuisés de l'impérialisme, de l'arrogance et du terrorisme de la France. Aujourd'hui, la France est la quatrième réserve d'or mondiale, alors qu'il n'y existe aucune mine d'or. Ces mines d'or se trouvent toutes en Afrique, surtout au Mali et en République du Niger. Le néocolonialisme français en Afrique doit cesser. Son heure est venue.
Thank you.